Bonjour, pour cette quatrième émission sur Dans notre musée imaginaire, je remercie les auditeurs qui nous écoutent avec fidélité. Je sais que certains nous écoutent depuis les États-Unis. Je souhaite aussi qu'après chaque émission, vous reveniez un petit peu sur ces œuvres et les regarder avec le texte que nous avons écrit. Et aujourd'hui, nous allons voyager, nous allons partir dans les Flandres et nous viendrons en Italie. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Les Flandres, au XVe siècle, on possède un art qu'on appelle l'art flamand, mais c'est un art qui est un art transfert vers l'Italie. Les Flandres, au XVe siècle, donc, sont sous le contrôle de la Bourgogne. C'est un pays qui a une très grande activité commerciale, et les peintres flamands vont développer la peinture à l'huile. Cette peinture à l'huile vient donc de Flandre. En Italie, les Italiens utilisaient la tempera et les peintres flamands vont utiliser la peinture à l'huile qui va donner un aspect beaucoup plus brillant à la peinture et donner aussi, améliorer aussi la touche de peinture et permettre comment dirais-je, de mettre en valeur les détails. L'art flamand est dans un but de réalisme, pas d'idéal antique, comme l'art florentin, l'art de la Renaissance italienne, mais dans un réalisme très exacerbé. Pour les peintres flamands, la peinture à l'huile va permettre de peindre des détails très précis, donc d'accentuer le réalisme. Et on va avoir des échanges très importants entre la peinture flamande et l'Italie. Le peintre le plus important, c'est Jan van Eyck, 1390-1444, et je vous conseille de voir le portrait de l'homme en bois. C'est un autoportrait, peinture à l'huile, qui va permettre de mettre en évidence beaucoup de détails. C'est un homme au turban rouge. Et le caractéristique, c'est que ce visage est peint de trois quarts avec une animation du visage. C'est une composition pyramidale qui va guider le spectateur vers le visage. Le vêtement est sombre, il se confond avec le fond du tableau et le turban rouge est superbe avec ses plis. Autre caractéristique importante de cette peinture, c'est que le portrait est de trois quarts. Et donc, il présente un regard vers le spectateur. C'est un portrait qui est extrêmement vivant, qui va accrocher le regard du spectateur. Et extrême précision des yeux, de la barbe naissante, du bas du visage, ainsi que de la bouche. Et le peintre va signer son œuvre. En Italie, nous avons un naturalisme très marqué, une idéalisation plus que le réalisme, ce qui sera l'inverse pour la peinture flamande. Deuxième œuvre de Van Eyck, conservée à la National Gallery à Londres, c'est Les Époux Arnolfini, tableau extrêmement célèbre, 1434. C'est un couple de nobles dans leur chambre, marchand italien, naturalisé flamand. Ces époux italiens vont faire plusieurs voyages de Flandre à l'Italie et inversement. Et le peintre va signer ses œuvres. Il se représentera lui-même d'ailleurs en train de peindre dans le miroir situé dans le fond du tableau. Donc c'est une peinture remarquable et je vous conseille de prendre le temps de l'étudier. La deuxième œuvre très intéressante, c'est La Vierge du chancelier Rollin, 1435. Van Eyck est aussi influencé par la peinture italienne. Donc vous voyez ces échanges entre peinture flamande, peinture italienne. Rollin est chancelier du duc de Bourgogne et la Vierge en enfant est face au chancelier. Nous avons une mise en perspective par le sol, un réalisme très prononcé en perspective linéaire, influent de l'architecture à l'antique, avec des paysages très réalistes en arrière-plan et un grand souci du détail. Autre peintre flamand très important, Roger van der Weyden, 1400-1464, il est formé en Italie et va mélanger les techniques d'innovation flamande. Parmi ses œuvres les plus marquantes, nous avons Saint-Luc peignant la Vierge. Vers 1450, van der Weyden voyage en Italie, à Rome et à Florence. Nous revenons en Italie avec ces peintres qui vont subir l'influence de la peinture flamande avec l'utilisation de la peinture à l'huile, et un des principaux, c'est Messina. Antonello de Messina, 1430-1479, va révolutionner l'art du portrait en Italie. C'est un peintre italien influencé par l'art flamand et surtout il va introduire l'art du portrait de trois quarts et la peinture à l'huile. Et je vous parle comme exemple de son œuvre La Vierge à l'Enfant en 1469. Deuxième œuvre remarquable, c'est le Condottiere qui est au Louvre, 1475, porté de trois quarts vers la gauche, qui est une composition pyramidale. L'autre peintre important, c'est Andrea Mantegna, 1431-1506. C'est le développement du trompe-l'œil à l'extrême. C'est une vision de l'Antiquité, du point de vue archéologique, dans ses tableaux. Il va travailler à Padoue, à Vérone, à Mantoue. Et parmi ses œuvres importantes, nous avons le Retable de San Zeno. Et la deuxième œuvre importante, c'est le Palais Ducal de Mantoue. Et je vous conseille de regarder cette œuvre, car c'est une fresque pour la chambre des époux avec un grand oculus qui est peint au plafond de la chambre des époux. Architecture en trompe-l'œil, nous avons l'impression que les animaux peints au mur, les poutis, vont se pencher vers les époux. C'est une recherche d'amusement dans les détails, un grand jeu des illusions. Et l'œuvre la plus célèbre, bien sûr, de Mantegna, le chef-d'œuvre de la Renaissance italienne, c'est le San Sébastien, vers 1480, qui est au Louvre, avec cette victoire du christianisme sur le paganisme, avec des ruines en arrière-plan, symbole de l'Antiquité. Et nous voyons donc qu'avec la pensée est double dans cette œuvre, avec la victoire du christianisme et avec l'idéal de la beauté antique. Autre grand peintre, bien sûr, vous attendez, je suppose, c'est Botticelli, 1445-1510. Botticelli va marquer l'apogée de la peinture florentine, renouvellement des arts grâce à l'humanisme, concept des œuvres et lectures des grands textes humanistes. Il est apprenti chez Lippi et il va intégrer le cercle des Médicis. Il fait un voyage à Rome, il aura un style très personnel par l'élégance de son œuvre, la poésie et la grâce. Une de ses œuvres, bien sûr, les plus conséquentes, c'est Le Printemps, 1482, au Musée des Offices à Florence, centré sur la poésie, un jardin idéal du printemps, personnage lié à la mythologie de l'Antiquité. C'est une œuvre liée à un texte de Lucrèce, l'hymne à Vénus. Description, nous avons Vénus au centre, au-dessus Cupidon, à gauche Mercure qui chasse les nuages. À gauche aussi, les trois grâces déesses qui accompagnent Vénus, elles représentent la beauté, l'allégresse, l'abondance. À droite, nous avons Flore, déesse du printemps, et à droite aussi Zéphyr, qui représente le vent. Et un peu à côté, Chloris, déesse des fleurs. Donc c'est une tempéra sur bois. Les personnages sont sur la pointe des pieds, ils semblent flotter, noter le jeu des regards, des mains, des yeux. C'est l'école florentine avec cette priorité du dessin. C'est un renouveau du monde par la déesse Vénus de la beauté. Ce monde, c'est un lieu de bonheur, c'est un lieu épicurien, bonheur de vivre, de la grâce. On va se réapproprier la pensée antique, printemps du monde, du plaisir, de la volupté du corps. Et aussi, c'est une apothéose, puisque nous avons derrière le jardin des dieux, le jardin des Hespérides, avec des arbres fabuleux donnant des pommes d'or. Donc nous avons dans ce tableau une idéalisation des corps, peinture très dessinée, très florentine. La deuxième œuvre, La naissance de Vénus, toile de 1496, conservée à la Galerie des Offices à Florence, c'est le premier nu féminin depuis l'Antiquité. Il innove par cette Vénus, elle sort de la coquille, attribut de la naissance dans la mythologie, déesse Flore à sa droite, Zéphyr à gauche, c'est un sujet tiré des textes antiques. Et enfin, le dernier peintre, Andrea de Verrocchio, c'est un peintre orfèvre, sculpteur, il prend la relève de Donatello en tant que sculpteur et peintre, et il va enseigner il enseignera les plus grands peintres, Botticelli, les Pérugins, Ghirlandiano et Léonard de Vinci. Il va, en tant que successeur de Notaletto, représenter un David aussi, une statue équestre. Et en tant que peintre, il y a un tableau qui est très célèbre, c'est le baptême du Christ, qui est aux Offices de Florence, parce qu'on pense que les deux personnages, à gauche, les anges, auraient été peints par Léonard de Vinci. Merci pour cette 4e émission et je vous conseille de revenir sur ces œuvres, de vous pencher devant ces œuvres dans des moments de détente, voire des moments de solitude.